Alors, ce soir, nous allons poursuivre les cours Fondements de la foi chrétienne. Nous sommes à la semaine 2. Donc, nous allons commencer par nous poser la question, pouvons-nous avoir la certitude de notre salut? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Croire au nom du Fils de Dieu signifie croire en la personne de Jésus-Christ, qui il est, et en son œuvre de rédemption. Alors, ceux qui croient, vous êtes de ceux qui croyez en la personne et en l'œuvre de Jésus. Donc, il faut que vous sachiez, c'est Dieu qui vous le dit, que vous avez la vie éternelle, que vous êtes sauvés. C'est une affirmation. Regardons ce que le Seigneur Jésus déclare dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. » Quand Jésus répète « en vérité », c'est très solennel. Ça veut dire que c'est vraiment la vérité. « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez en Jésus, en son Père? Est-ce que vous croyez tout ce qu'il a dit puis ce qu'il a accompli? Si la réponse est oui, bien, comme c'est écrit, vous avez la vie éternelle et vous venez point en jugement. Le jugement, ce n'est pas pour vous, mais vous êtes passé de la mort à la vie. Vous étiez mort avant et en venant à la connaissance du salut en Jésus-Christ, vous obtenez la vie. C'est une certitude, c'est la Bible qui nous le dit. Dans ce verset, le Seigneur promet trois choses à ceux qui reçoivent son message par la foi. Parce que c'est par la foi et non par les œuvres qu'on est sauvés. Un, ils obtiennent la vie éternelle. Deux, ils ne viennent point en jugement. Et trois, ils sont passés de la mort à la vie. C'est merveilleux, ça ne peut pas être plus clair. Il nous le dit, c'est la même chose qu'il nous dit, mais de trois manières différentes. Pour nous assurer de notre salut en lui, lorsque nous croyons en lui puis que nous persévérons dans la foi jusqu'à la fin. Le chapitre 10 de l'Épître aux Romains donne à ceux qui croient en Jésus la certitude, premièrement, qu'ils seront sauvés, dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tu le confesses de ta bouche, mais tu le crois dans ton cœur. Ce n'est pas juste une façade, c'est une réalité dans ta vie, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Donc, tu es sauvé. Deuxième certitude, c'est « ne seront point confus » dans Romains 10, verset 11. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Le terme original grec pour « confus » signifie « être honteux », être en disgrâce. Autrement dit, lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, nous serons confiants, car nous aurons l'assurance de notre salut, grâce à qui? À Jésus. Les gens qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ diront que c'est de la présomption, qu'il est impossible d'être absolument certain de ce qui va se passer après la mort. Mais gardons en tête que ce qui est important, c'est ce que Dieu déclare, et non ce que peuvent en dire les hommes. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Dans Jean 20, verset 31, il est écrit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est clair. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous avons l'assurance de notre salut. On n'est pas sauvé à moitié, on est complètement, entièrement sauvé et éternellement sauvé. Si on demeure dans la foi jusqu'à la fin, évidemment. Maintenant, on parle beaucoup de la foi. Sauvé par la foi, vivre par la foi. Qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11:1, on a une définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas un vague désir de quelque chose qu'on voudrait qu'il arrive dans un avenir incertain. Non, la foi véritable, c'est une certitude absolue. Je sais que je sais que je sais. À l'intérieur de nous. Souvent, c'est relié à des choses que le monde considère comme irréelles et impossibles. Quand on suit un Dieu dont on n'a jamais entendu la voix de manière audible et qu'on croit en un Christ qu'on n'a jamais vu le visage, on le fait parce que notre foi comporte une réalité et une assurance qui sont inébranlables. Ce n'est pas une vague idée, c'est une assurance. Jésus a dit qu'en agissant ainsi, nous sommes particulièrement bénis. C'est écrit dans Jean 20, verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'avons pas vu le Seigneur, mais nous croyons dans le Seigneur. Alors, il y a une bénédiction, c'est écrit « heureux ». Le Seigneur dit que nous sommes heureux. Dans un certain sens, tous les hommes vivent par la foi. Parce que lorsqu'on boit l'eau qui sort du robinet chez nous, dans notre maison ou quand on va ailleurs, on la boit en étant parfaitement sûr qu'elle est bonne. On n'ouvre pas le robinet puis trembler, m'as-tu été empoisonné? On est sûr, on a la foi. C'est une foi naturelle que l'on a. L'eau va être bonne. Lorsque nous mangeons au restaurant, on est certain que la nourriture n'est pas contaminée. Sinon, on n'irait jamais manger au restaurant. Puis quand on reçoit notre paye, pour ceux qui travaillent, quand on reçoit notre paye, ou moi qui est à la retraite, quand je reçois ma pension, bien, je suis confiante que le gouvernement va m'envoyer ma pension à chaque mois. Et l'employé, il est confiant que son employeur a les fonds pour honorer le versement. C'est une foi aussi, parce qu'il n'y a pas de certitude. Nous plaçons notre foi dans le chirurgien, dans l'équipe médicale, lorsque nous avons besoin d'une intervention. Même si nous n'avons aucune connaissance, ni aucune expérience dans tous ces domaines, que sont le traitement des eaux, la préparation des repas en restaurant, le système de la paix ou la chirurgie, bien nous plaçons entièrement notre confiance dans les personnes qui donnent ces services. Cela démontre que la capacité de croire existe dans chaque être humain. La foi spirituelle opère dans le cadre de cette capacité, car elle accepte des choses qu'elle ne comprend pas. Quand on accepte ces choses, on ne les comprend pas, mais on les accepte. Alors, la foi spirituelle opère également dans ce domaine, sauf qu'elle est très différente de la foi naturelle, car justement, elle n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle vient de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » L'homme naturel a déjà la capacité de croire, mais Dieu vient ajouter la foi spirituelle lorsqu'il se révèle aux gens, aux personnes, aux pécheurs, pour qu'ils acceptent Jésus-Christ. La foi spirituelle ne se base pas sur des preuves tangibles, matérielles, physiques, mais sur une assurance que Dieu nous donne. C'est une grâce de Dieu, c'est-à-dire un don, un cadeau. La foi permet de croire en Dieu et en ses promesses, de recevoir le salut en Jésus-Christ et de vivre une vie agréable à Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Ça prend la foi, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si on veut plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Philippiens 4, verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Avoir la foi que Dieu répond aux prières, avoir la foi que Dieu répond à nos besoins, qu'il comble nos besoins, parce qu'il l'a promis. Et on s'adresse à lui, parce qu'on a la foi justement qu'il va nous répondre, on s'adresse à lui par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En parenthèse, supplication, ça ne veut pas dire pleurer à chaudes larmes. Les gens confondent des fois par rapport à ce que ça ressemble à supplice, mais la racine du mot n'a aucun rapport. Supplication, ça veut dire avec persévérance, ça veut dire avec ténacité, ça veut dire qu'on ne lâche pas. Ça veut dire que si on prie pour, par exemple, une guérison, on prie jusqu'à ce qu'on obtienne notre guérison, jusqu'à ce qu'il y ait un déroulement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, mais on ne lâche pas. C'est avec acharnement, si vous voulez. On supplie Dieu. Dans Romains 1, versets 16 et 17, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est la foi, croire. « Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Nous vivons par la foi dans les promesses de contenu dans sa parole, la foi dans la personne de Dieu, qui il est. Il est fidèle, il est bon, il est juste, il est saint. Alors nous avons la foi qu'il est notre Dieu et qu'il prend soin de nous. Il est notre papa aussi, n'oubliez pas, il nous a adoptés. Dans Hébreux 10, versets 38 et 39, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Tantôt je disais « Par la foi, nous avons l'assurance de notre salut, mais jusqu'à ce que nous persévérons, jusqu'à la fin, il faut persévérer. » Nous, l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue au verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Autrement dit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. « Ceux qui apostasient, apostasie veut dire abandonner la foi. » Alors, ceux qui apostasient font partie de ceux qui se retirent. Et alors, à ce moment-là, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit Dieu. Pourquoi Dieu nous accorde-t-il ce don si merveilleux de la foi qui nous mène au salut? Ce n'est pas parce que nous sommes méritants, mais c'est par amour. Il nous aime tellement, puis il aime tous les pécheurs. Alors cette foi est disponible pour tous ceux qui veulent la recevoir. C'est un cadeau. On ne force jamais quelqu'un à prendre un cadeau, mais la personne, c'est à elle de le prendre, le cadeau. Alors, c'est parce qu'il nous aime, c'est par amour. Maintenant, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour est l'attribut le plus connu, mais aussi le plus méconnu de Dieu. L'amour est un attribut essentiel de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que ça fait partie de l'essence de son être, de qui il est. En tant qu'attribut, parce qu'il y a plusieurs attributs, Dieu, il est fidèle, il est bon, il est amour, il est infini, éternel, ainsi de suite. C'est, en tant qu'attribut, l'amour ne peut pas être dissocié des autres attributs. Donc, ces autres attributs vont nous en apprendre beaucoup sur son amour. Par exemple, parce que Dieu existe de lui-même, son amour n'a pas de commencement. Et parce qu'il est éternel, Dieu est éternel, son amour est éternel. Parce que Dieu est infini, sans limite, son amour n'a pas de limite. Parce que Dieu est saint, son amour est pur et sans tache. Il y a une fausse doctrine qui est très répandue, puis qui déclare qu'au nom de l'amour, Dieu acceptera tout être humain dans le ciel pour l'éternité. Peu importe ce que les gens pensent, disent ou font, peu importe qu'ils vivent dans le péché ou même qu'ils croient ou non en son existence. Et ça, c'est une fausse doctrine qui est répandue dans les églises évangéliques, pas juste à l'extérieur. Puis cela va totalement à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont privés. C'est écrit, ils sont privés de la gloire de Dieu. L'amour de Dieu ne peut jamais être séparé de sa sainteté et de sa justice. Dieu n'acceptera jamais un pécheur non repentant en sa présence pour l'éternité, même s'il éprouve de l'amour pour lui. Il n'acceptera pas non plus ceux qui ne croient pas en lui. Est-ce que vous pouvez imaginer le ciel rempli de pécheurs non repentants qui continuent à vouloir voler, tuer, violer, extorquer? Même le gros bon sens nous montre que non, ça ne se peut pas. Dieu n'obligera jamais non plus quelqu'un à croire en lui ou à se soumettre à sa volonté. Parce que Dieu n'a pas créé des robots. Il a créé l'homme libre de choisir. Ça s'appelle le libre arbitre. Dieu fait tout pour sauver l'homme parce qu'il aime l'homme. Il a donné son Fils unique en sacrifice comme substitut. C'est le plus grand sacrifice qu'il y a jamais eu puis qu'il n'y aura jamais eu. Il n'y en aura jamais de plus grand. Puis il a envoyé le Saint-Esprit pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. La puissance du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs endurcis. Dieu agit sur les circonstances et les événements pour que les pécheurs se tournent vers lui. Mais c'est à l'homme de faire le bon choix. Dieu respecte le libre arbitre. Qu'est-ce que l'amour de Dieu pour nous? L'amour de Dieu n'a pas le caractère changeant et incertain propre à l'amour humain. Parce que l'amour humain, c'est entaché d'égoïsme et d'orgueil. Je t'aime, mais tu me dois en retour ceci ou cela. Je t'aime pour ce que tu m'apportes. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Je t'aime parce que j'y trouve des avantages. L'amour humain est toujours tourné vers soi-même. L'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu se manifeste par sa résolution, c'est-à-dire sa volonté résolue, d'adopter envers l'homme une attitude bienveillante et bienfaisante, même si celui-ci n'en est pas digne. L'amour de Dieu est universel. Il s'étend au monde entier, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de statut social. Dans Jean 3, verset 16, que nous connaissons bien, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est n'importe qui, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. » 1 Jean 4, verset 9 et 10, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui nous a aimés en premier. Combien d'entre nous marchions autrefois sans même penser à Dieu, sans même penser à son existence, ou simplement peut-être même en colère contre Dieu pour certains événements arrivés dans notre vie. Mais Dieu nous aime, il aime le pécheur, même lorsque nous sommes en révolte contre lui. Dans Romains 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, avant de connaître Christ, encore des pécheurs, dans le péché, Christ est mort pour nous. Pourquoi Dieu aime tellement l'humanité? » On peut se poser la question. Dans Genèse 1, verset 27, nous trouvons notre réponse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pas juste l'homme, mais la femme aussi. À l'image de Dieu. Nous voyons que l'homme est différent du reste de la création. L'homme n'est pas un animal évolué. Il a été créé à part. Dieu n'a pas mis son image dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, mais seulement dans l'homme. Puis le mot hébreu traduit par image porte le sens de ressemblance. Nous ressemblons à Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux et nous ne le serons jamais. N'oublions jamais que Dieu est le Créateur. Nous sommes des créatures. Dieu n'a jamais eu de commencement, puis il n'aura jamais de fin. L'homme a eu un commencement, son corps aura une fin. Seule son âme et son esprit ont une valeur éternelle. Dieu reconnaît dans l'homme le porteur de son image. C'est pour cette raison qu'il l'aime tellement et qu'il désire une relation personnelle avec lui. Dieu aime tous les hommes. Nous l'avons vu, il aime l'humanité. Mais il va manifester une affection particulière envers ceux qui ont cru, envers ceux qui ont répondu à son amour. Lorsque nous acceptons le salut de Dieu, bien, il se produit quelque chose de merveilleux. C'est que nous devenons les enfants spirituels de Dieu par adoption. L'humanité L'homme n'est pas, ne sont pas tous des enfants de Dieu, ils sont tous des créatures de Dieu. Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ sont adoptés par Dieu. Ils deviennent des enfants de Dieu. Et comme nous, avec nos enfants, nous avons une affection particulière, Dieu a une affection particulière envers nous. Pas parce qu'il fait des préférences, mais parce que nous avons reçu son amour et nous y avons répondu. Alors nous pouvons recevoir ses bénédictions, nous pouvons recevoir encore plus de son amour parce que nous sommes ouverts à lui. Dans Galates 4, versets 5 et 6, il est écrit « Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». À partir de ce moment-là, nous avons une nouvelle famille, car nous faisons partie de la grande famille de Dieu, qui est l'Église universelle. Dieu aime ses enfants avec une bienveillance et un amour éternel. Dieu prend soin de ses enfants, il les protège, il leur communique des dons et la puissance de son Esprit Saint en vue d'un service spirituel d'une portée éternelle. Dieu sanctifie ceux qui lui appartiennent, car son idéal pour ses enfants est qu'ils soient parfaits, comme leur Père Céleste est parfait. Pour nos enfants aussi, on désire toujours le mieux. On veut qu'ils fassent des études, on veut qu'ils aient un bon emploi, on veut qu'ils aient une bonne situation, qu'ils soient bien mariés. On veut toujours le mieux. Dieu veut le mieux pour ses enfants. Et parfois, pour nos enfants, il faut parfois les corriger, il faut parfois refuser des choses. Mais Dieu, c'est pareil. Il nous sanctifie. Et parfois, ce sont par des événements, des circonstances, des épreuves que l'on traverse, mais qui nous font grandir, qui nous font nous rapprocher du Seigneur, c'est comme polir. Vous savez, quand on polie une perle ou un diamant, lorsqu'on le taille, et qu'il devient vraiment plus éclatant et utile aussi pour faire un bijou. Un diamant brut, on ne peut pas faire un bijou avec ça. Sachant que le Père nous a tellement aimés, nous savons que chaque événement de notre vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi on peut faire nôtre la promesse de Romains 8, 28, que plusieurs connaissent sûrement par cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, pas juste quelque chose, toute chose, tout événement, toute circonstance, toute épreuve, Dieu fait tourner le mal en bien. Dieu fait tourner les événements en notre faveur. Toujours. Chaque événement, chaque situation, chaque épreuve dans notre vie est permis par notre Père. Il faut le croire parce que c'est vrai, parce que Dieu est en contrôle de tout. Est-ce qu'on croit que Dieu est en contrôle ou pas? Alors, si on croit que Dieu est souverain, qu'il est en contrôle de tout, eh bien, tout ce qui nous arrive, il n'est pas surpris, il est au courant et il l'a permis parce que Dieu nous protège, nous sommes ses enfants. Et tout cela arrive dans le but d'accomplir ses desseins pour chacun d'entre nous. Même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi ou le comment, nous savons que tout est dicté par l'amour divin. C'est son amour, nous savons qu'il est pur, saint, irrépréhensible, bienveillant et bienfaisant. À la fin de cette vie de ce monde, ben Dieu, il va glorifier ses enfants en les faisant vivre éternellement avec lui dans son royaume céleste. C'est notre espérance, c'est la promesse qu'il nous a faite. Ainsi donc, nous avons cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est écrit dans Romains 8, les versets 35 à 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, devant un tel amour, un si grand amour, quelle doit être notre réponse à Dieu? Premièrement, obéir à ses commandements. Dans Jean 14, verset 16, c'est Jésus lui-même qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et dans Jean 14, versets 23 et 24, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Alors, obéir au commandement de Dieu, de Jésus, de ses préceptes, ses instructions qu'il y a dans sa parole, ce n'est pas pénible parce que nous ne le faisons pas par obligation, nous ne le faisons pas parce que nous avons un fusil sur notre temple. Non, nous le faisons par amour. Nous l'aimons, nous voulons lui plaire. Alors, tout ce qui lui déplaît, nous voulons éliminer ça de notre vie. Nous voulons persévérer dans ce qu'il aime, dans ce qu'il nous a recommandé, dans ce qui fait son plaisir. Deuxièmement, manifester l'amour envers Dieu et notre prochain. Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et Dieu va même plus loin en nous demandant d'aimer nos ennemis. Dans Matthieu 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Humainement, c'est impossible, mais par la grâce de Dieu, tout est possible. C'est écrit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne nous demande pas de vivre avec nos ennemis puis de continuer à se faire battre par nos ennemis ou avoir du mal par nos ennemis, mais il nous demande de leur pardonner, de les aimer et de prier pour eux, de les bénir. Et ça, c'est possible par la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 3, versets 20 et 21, il est écrit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est Saint-Esprit, n'oubliez pas qu'on n'est pas seul dans notre combat, dans nos luttes, le Saint-Esprit est en nous. Donc, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous pouvons penser que c'est impossible, telle personne m'a fait tellement quelque chose de grave, c'est impossible que je puisse y pardonner. Mais la puissance qui est en toi est plus forte que ta propre volonté. Si tu t'y soumets, oui, ça va être possible. Et le verset continue au verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Alors pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'on glorifie Dieu, en ressemblant à Jésus, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, qui a béni ceux qui ont craché sur lui, s'il est notre modèle. Troisième point, manifester l'amour envers les enfants de Dieu. L'amour fraternel doit aussi devenir la marque de l'enfant de Dieu. Dans Jean 15, verset 12, c'est écrit, « C'est ici mon commandement. » Tantôt, au premier point, on disait d'obéir à ses commandements. Voici un commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » L'amour manifesté en croyant, là, ça doit être notre air de famille. L'air de famille que nous portons en nous. Et qui se voit à l'extérieur. « Ah, je reconnais qu'il est chrétien, il appartient à la famille, il est frère, il est sœur, parce qu'ils s'aiment entre eux. » Dans Jean 13, verset 35, il est écrit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Avoir de l'amour les uns pour les autres, ce n'est pas juste dire « je t'aime en parole », mais c'est aussi en action. On voit un frère, une sœur qui est en besoin, on va le secourir, on va le consoler, on va le réconforter, on va prier pour nos frères, nos sœurs, on les garde en prière à la maison. C'est ça, On évite de parler en mal. Si on a juste des mauvaises pensées sur une personne, elles ne viennent pas du Seigneur. On les chasse, on dit « Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. » Et on ne parle pas en mal des uns des autres. Ça, c'est, ça ne vient pas du Seigneur. La médisance, la calomnie, ça ne vient pas de Dieu. Dernier point, honorer Dieu par nos actions. 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, ça revient à dire renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Parce que Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toute sa vie, c'était pour la gloire du Père. Une fausse doctrine qui fait des ravages dans les églises, c'est l'amour unit, mais la doctrine divise. Et on entend ça de plus en plus. Les adeptes de cette doctrine font de l'amour une idole. Ils confondent la personne de Dieu avec son attribut qui est l'amour. Comme nous l'avons vu, l'amour, c'est un attribut de Dieu. Il ne peut être dissocié de ses autres attributs que sont la justice, la sainteté, la vérité, etc. Mais ces gens disent, concentrons-nous sur ce qui nous unit, ce que nous avons en commun, et oublions nos différences. Puis les différences, c'est la doctrine. Par exemple, moi, je crois que je suis sauvée en adorant Krishna, mais toi, tu crois que tu es sauvée en adorant Christ. Mais ça, c'est la doctrine. On va mettre ça de côté. On aime, on veut faire du bien à notre prochain, toi, tu veux faire du bien à ton prochain. On a ça qui nous unit. OK, on va se réunir ensemble pour ça. Alors, ça, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est le fond de la pensée de cette fausse doctrine. Pour unir les gens, les religions, unir les différentes spiritualités. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans ce panneau parce que c'est au dépend de la doctrine. Puis comme nous l'avons vu, bien, loin de provoquer la division, la doctrine biblique est celle qui enseigne l'amour véritable. Parce que ce type d'amour-là, ce n'est pas le vrai amour. Ce n'est pas le vrai amour qui est enseigné par la doctrine, ce n'est pas un amour mondain, social, sentimental, ni un amour qui flatte la personne puis qui la laisse mourir dans ses péchés. Ça, ce n'est pas un vrai amour. Le véritable amour est celui qui dit la vérité, qui déclare au pécheur qu'il a besoin de se repentir, il a besoin de se convertir, il a besoin de se sanctifier pour être réconcilié avec Dieu et obtenir la vie éternelle. C'est pas aimer quelqu'un de le laisser continuer une route si on sait qu'il y a un ravin puis qu'il va tomber dedans. Mais c'est de l'aimer que de l'avertir. Change de route, arrête, parce que là où tu t'en vas vers la perdition éternelle. Ça, c'est le vrai amour. Tous les versets que nous venons de voir au sujet de l'amour de Dieu envers nous, puis de notre réponse à son amour, de l'amour entre frères et sœurs dans l'Église, de l'amour envers notre prochain et même envers nos ennemis. Tous ces versets constituent la doctrine de Christ et ça parle de l'amour véritable, pas un faux amour. Alors, comment pourrions-nous dire que l'amour unit, mais la doctrine divise, puisque c'est la doctrine qui enseigne l'amour? L'amour de Dieu est certainement l'attribut le plus précieux au cœur du pécheur qui s'approche de lui. Parce que l'amour de Dieu lui permet de s'approcher en toute confiance devant Dieu, de se repentir, de demander pardon de son péché en ayant l'assurance qu'il va être pardonné, de se convertir, de remettre sa vie entre les mains de Dieu, parce qu'il sait que Dieu l'aime et lui veut du bien. Nous allons nous arrêter ici ce soir. La semaine prochaine, nous allons voir la suite, la semaine 3. Qui a comme titre principal qu'implique la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est un rendez-vous pour la semaine prochaine.